RRRNFC, vous écoutez la radio du lycée français au Caire.
Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Georges Roiron est présent avec nous pour nous parler de son métier car il n'est pas conteur.
Effectivement, je ne suis pas conteur, mais je pourrais l'être. Hein, c'est-à-dire que si je me présente comme diseur, c'est parce que j'utilise les mots des autres. Et que ce ne sont pas mes propres mots que j'utilise, donc je travaille avec des poèmes très connus sur lesquels, en principe, je n'ai pas le droit de faire d'erreur.
Alors, quel est exactement votre métier ?
Mon métier, il est complexe et j'ai plusieurs métiers à la fois. En ce moment, je suis acteur, je suis metteur en scène et je fais travailler énormément de comédiens français et étrangers à la diction, à la pose de voix parlée, c'est-à-dire à comment fait-on pour parler de façon à être entendu, et à la pose de voix chantée, c'est-à-dire comment utiliser son souffle pour chanter.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Ah, ça c'est une question très compliquée, parce que ce que je vais vous répondre là-dessus, c'est que les choix qu'on fait en général ne sont jamais délibérés. Un choix, c'est une série de choses, de circonstances qui fait que finalement on est en train de faire ça et on est content de le faire. C'est comme ça que ça se passe. J'ai choisi ce métier en fait parce que c'était celui qui me permettait de m'exprimer le plus pleinement. J'avais d'autres possibilités artistiques, hein. C'est-à-dire que j'aurais pu choisir la sculpture, le dessin, l'écriture. Et que je n'ai pas choisi, j'ai choisi cette chose-là parce qu'elle me permettait aussi, le métier d'acteur vous permet de vivre un certain nombre de vies rêvées, de la vie des autres. Et en vivant la vie des autres, eh bien on augmente la sienne.
Par quoi avez-vous commencé ?
Par quoi j'ai commencé dans le théâtre ?
Oui.
Alors là, c'est une question compliquée. Et alors voilà, eh bien j'ai commencé quand j'avais 7 ans à l'école primaire, dans une pièce qui s'appelait Vive les carottes pour un spectacle de Noël. Voilà, ça a été ma première apparition sur scène. Sinon, ensuite, c'était en secondaire. J'ai commencé je devais avoir 16 ans dans une pièce d'Anouilh qui se passe à Vichy avec un clarinettiste. Et j'ai oublié le titre et pourtant je connais tous les personnages. Non, ce n'est pas le voyageur sans bagages, c'est, bien pardonnez-moi, on va continuer parce que peut-être que le titre me reviendra tout à l'heure. Et après, de façon plus professionnelle quand même, je vais dire, j'ai aussi joué en anglais, d'abord à Paris dans une pièce de Pirandello qui s'appelait Le cerisier de Cher, qui est une pièce très peu connue de Pirandello. Ensuite aux États-Unis dans une pièce qui s'appelle... une pièce de Tennessee Williams, c'est encore une pièce très peu connue, qui s'appelle The Cockalony Bird, c'est-à-dire l'oiseau cockalony. voilà. Et puis après, à Paris, dans d'autres pièces.
Avec qui avez-vous travaillé ?
Avec qui ? Est-ce que vous voulez dire avec quel professeur ou avec quel gens célèbres ai-je déjà travaillé ?
Avec quel gens célèbres ?
Voilà. Alors, quel gens célèbres ? Des acteurs célèbres, je ne vais pas beaucoup vous en citer, parce que c'est au hasard des rencontres que ces choses-là arrivent. Mais enfin, si j'ai travaillé quand même, travaillé au théâtre ou travaillé autour du théâtre, parce que aussi ce sont des choses complètement différentes, j'ai travaillé avec Patrice Chéreau, puisque j'ai participé à... Il avait créé une école dans les années 80, ça devait être de 85 à 88, qui s'appelait l'École des Amandiers de Nanterre. Il était au théâtre des Amandiers de Nanterre à Paris. Et je suis intervenu au niveau diction pour faire travailler les élèves à ce moment-là, les élèves comédiens, qui sont des comédiens très connus, en revanche. La plupart d'entre eux, je vais vous en citer quelques-uns. Il y avait... Valeria Bruni-Tedeschi, que vous voyez peut-être au théâtre de temps en temps, Marianne Denicourt au théâtre et au cinéma, Thibaut de Montalembert, par exemple, si vous avez peut-être vu au cinéma, qui encore... toute cette génération a à peu près travaillé un peu l'addiction avec moi. Voilà.
Quelles études avez-vous dû faire ?
Ah, dû faire, ça c'est une question, quelles études est-ce que j'ai fait? C'est un peu différent parce que j'ai une formation, j'ai fait des études classiques et aussi fait des études techniques, c'est-à-dire que j'étais jusqu'à la terminale, j'étais dans des sections qui n'existent plus maintenant, mais j'ai étudié le grec, le latin, j'ai étudié les mathématiques et j'ai fait une école scientifique. Et après, j'ai fait deux écoles d'art dramatique, une à Paris et une à New York.
Avez-vous été metteur en scène?
Et je suis encore metteur en scène. C'est-à-dire que je n'ai pas cessé, même que je devais dire toujours que je suis encore comédien, je suis metteur en scène. C'est-à-dire qu'il m'arrive de faire des mises en scène, tantôt pour des élèves, j'interviens, tantôt décidé par moi, tantôt décidé par d'autres.
Vous préférez le théâtre ou le cinéma?
Ah. Alors, par rapport à une question pareille, c'est très compliqué parce de quel point de vue? Du point de vue spectateur, je préfère le cinéma. Du point de vue acteur, je préfère le théâtre. Pour les raisons suivantes. C'est-à-dire, au cinéma, l'acteur, doit rester dans son univers, l'univers de la caravane. Hein, il est seul, il attend que toute la technique soit prête. Il peut attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, jusqu'à ce que la technique soit prête. Et à ce moment-là, on va faire une prise, deux prises, jusqu'à 20 prises sur une scène très courte. On tourne à la fois 30 secondes à peu près de film. Alors qu'au théâtre, c'est différent. Du point de vue de l'acteur, on fait des répétitions qui conduisent à des représentations. Et au cours de la répétition et de la représentation, on a la responsabilité entière d'un personnage avec une évolution. Et à qui il arrive qui a des péripéties dans sa vie, dans son passage sur le théâtre. Donc il y a toute une construction artistique qui est beaucoup moins ferme au cinéma. C'est beaucoup plus au cinéma, c'est très très ponctuel. Voilà la différence. Mais en revanche, au point de vue spectateur, si je préfère le cinéma, c'est parce que dans le cinéma, on est plongé dans l'univers proposé par les artistes, par le son, par les effets spéciaux, par toutes ces choses-là, et donc on change de vie. Et au théâtre, ce changement de vie réclame une attention beaucoup plus grande, et on a plus de liberté dans la tête pendant qu'on assiste à une pièce de théâtre, et aussi, au théâtre, la critique est beaucoup plus facile. Je veux dire, moi, étant donné mon métier, quand je vais voir une pièce de théâtre, j'ai souvent envie de critiquer ce qui se fait.
Quand vous étiez écolier, vous vouliez déjà faire ce métier?
Oh, je voulais tout faire quand j'étais écolier. Je voulais tout écrire, dessiner, peindre, être pompier. Ça arrive toujours aux garçons quand ils ont 7 ans. Et puis, j'ai voulu être couturier. Non, mais vraiment tout, peintre. Je voulais absolument tout faire. Je me représentais comme étant le Léonard de Vinci de la nouvelle génération.
Dans quel théâtre avez-vous donné des représentations?
Alors là, c'est encore une question piège. J'ai fait beaucoup de théâtre de France, déjà dans les différentes villes de France en tournée. Je peux citer des théâtres magnifiques, en plus, comme à Besançon, à Rennes, qui sont des théâtres à l'italienne, à l'Opéra de Lille, l'Opéra de Clermont-Ferrand, à l'Opéra de Lyon, à l'Opéra de Marseille, dans des villes comme Tunis, dans des théâtres de Paris, mon Dieu, ma mémoire va me jouer. On se souvient plus facilement, les acteurs se souviennent plus facilement des pièces qu'ils ont jouées que des théâtres dans lesquels ils ont joué. Enfin, le Lucernaire, le théâtre des Jazets, le studio des Champs-Élysées, etc.
Dans quelle langue avez-vous donné des spectacles alors?
Alors, en français, en italien et en anglais. Voilà, c'est vite, c'est une question à laquelle on répond très très vite. Alors beaucoup plus en français quand même. Oui.
Est-ce que ce métier vous fait beaucoup voyager?
Non, pas excessivement. Non, non. Alors il faut bien comprendre que je donne énormément de cours chez moi. Donc ce sont les gens qui voyagent pour venir me voir. Et je voyage en fonction de ce qui se présente. Je ne fais pas une recherche active aussi pour voyager. Voilà.
Donc quelquefois, est-ce que vous improvisez?
Alors la question n'est pas complète pour moi. Qu'est-ce que j'improvise du texte?
Bah, oui.
Écoutez, vous m'avez vu. Je suis passé dans votre classe. Pas encore?
Non.
Pas encore. Mais disons que là, je suis en train d'improviser. Hein. Dans toutes mes interventions avec qui que ce soit, je suis en train d'improviser. Donc ça, c'est un genre d'improvisation qui est surtout une improvisation de transfert de connaissances, d'informations. Effectivement, l'improvisation créatrice, eh bien, pas très souvent, parce que personnellement, j'ai tellement le goût des mots déjà bien établis, bien construits, etc., que l'improvisation forcément est une sensation un peu difficile par rapport à, c'est-à-dire qu'on n'en arrive pas à créer en improvisation des choses aussi extraordinaires que ce qu'a écrit Racine par exemple. Hein, les vers sont très difficiles à improviser, les situations un petit peu plus. Mais je vais vous dire une chose, faire une confidence, la plupart des gens qui improvisent connaissent en général très bien le canevas suivant lequel ils improvisent, donc ils peuvent improviser à partir de choses qu'ils connaissent. Et d'une manière générale, l'improvisation implique qu'il y ait en dessous une structure très forte. Tous les musiciens vous diront ça.
Hein? À peu près combien de poèmes vous connaissez?
Alors, d'abord, je suis familier avec un grand nombre de poètes, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de poètes. Donc à ce moment-là, si tu dis combien de poèmes est-ce que j'ai lu, 500, 1000, je veux dire, ça c'est très difficile à évaluer. Maintenant, le nombre de poèmes que je connais absolument par cœur sans me tromper, c'est encore un autre nombre. Et le nombre de poèmes que je connais, mais que pour les que je dois reprendre pour les dire, c'est encore un autre nombre. Alors, par cœur sans me tromper, disons que le nombre est compris entre 50 et 500 et 100. Non, pas entre 50, c'est entre 50 et 100. Hein? Peut-être un peu plus. Et que je dois reprendre, disons, le double, pas plus. Hein, je veux dire. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que je peux les apprendre très rapidement, les poèmes, s'ils ne sont pas trop longs. Oui.
Donc, de quel auteur vous prenez les poésies?
Ah, alors là, mon poète favori, si c'est là la question, c'est Paul Verlaine. J'aime aussi beaucoup Apollinaire, j'aime beaucoup de poètes, parce qu'ils n'ont pas tous, chaque poète a des chefs-d'œuvre particuliers qu'on aime plus ou moins, hein, je dirais. Et moi, Baudelaire, j'aime énormément Baudelaire, voilà. À force de chercher, je vais citer tous les poètes. Parce que forcément, à partir du moment où on cherche à entrer dans une œuvre, on se l'approprie et donc on l'aime.
Est-ce que vous préparez vos spectacles ou vous improvisez totalement?
Les spectacles, les récitals de poésie et de fables?
Oui, par exemple, est-ce que vous prenez et vous dites « oui, ben, je vais faire ça, ça et ça » ou vous improvisez totalement sur le moment?
Alors, disons que non, je préfère avoir un plan, mais je veux dire, ce plan, il est juste dans ma tête. C'est-à-dire que sur le moment, je peux supprimer ou ajouter par rapport à mon plan. Hein? Si par exemple, dans un récital de poésie, j'ai dit, bon, maintenant, on va passer à Verlaine ou à Baudelaire, eh bien, comme j'ai un fond de poème assez grand par rapport à ces poètes-là, je vais, suivant mon humeur ou suivant l'état du public, etc., rajouter ou supprimer un poème que j'avais prévu de dire, par exemple. Donc c'est de l'improvisation dans cette mesure-là.
Merci de nous avoir répondu à nos questions et au revoir.
Au revoir et j'étais vraiment très content de parler à vos auditeurs et à vous-même
aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.
Merci.